C'est comme une belle série, hein. Voilà, je voulais un peu résumer le premier message en 2 ou 3 minutes pour ne pas manger tout ce qui reste à dire à propos de cette fameuse lettre. J'ai donné un titre à ce message, c'est la profondeur des mots. On avait dit la fois passée combien une lettre peut bouleverser une vie. Et cette lettre, elle a l'air un peu parquée dans la Bible comme ça, elle est juste avant un mastodonte de la Bible qui est le livre aux Hébreux. Et je pense qu'on la lit en fait en 2 minutes. Et bien souvent, je pense que ça m'est arrivé 7 ou 8 fois. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là, cette lettre-là, je comprends pas trop. Hein, est-ce que c'est pour rendre vivant un peu le témoignage de Paul? Est-ce que je vous ai préparé là, est-ce que c'est un slogan pour vous accrocher, pour vous dire waouh, aujourd'hui ça va être génial, il y a la télé? Non, mais pas du tout. C'est pour vous dire combien cette lettre, elle m'a bousculé pendant toutes les vacances. Je pense que à la maison, on est 3 pour l'instant. Il y a Marilyn, il y a moi, mais aussi Philémon qui est un peu toujours présent parce que il m'a vraiment bousculé, le gars, pour ne pas dire bouleversé. Et j'ai envie de vous dire ça dans la liaison de ce qui a été dit et chanté jusqu'à présent, de laissez-vous faire, laissez-vous aller. Il y a beaucoup à recevoir, il y a beaucoup à dire. Et c'est Alex qui va nous conduire progressivement dans la lecture de la lettre qu'on va découper en 4 parties.
De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ.
Bien souvent, ces débuts de lettres, on les zappe. Parce que dit, oui, en fait, il dit bonjour, il dit cher ami. Et je pense que, sans m'attarder trop sur ça, je pense quand même que ça, c'est le cadre. Et que Paul va donner vraiment l'aperçu des relations qu'il y a entre ces 3 personnes. C'est-à-dire qu'il y a un seul point commun entre les 3 personnes, c'est le Christ. C'est le Christ parce que Paul réexplique son statut, je suis prisonnier à cause de lui. Et les 2 autres, leur vie a été bouleversée parce qu'ils ont rencontré le Christ. Et au-dessus de cette relation, il va mettre tout un couvercle d'amour. Hein, il emploie des mots très forts pour dire que cette affection-là, elle vient de ce qu'il y a en Christ, de cette relation-là. Le 2e élément, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la lettre, que c'est très important, que cette lettre, c'est pas seulement la lettre à Philémon, mais que cette lettre, elle est publique. Ça veut dire que sa famille va la découvrir, que ses proches collaborateurs vont la découvrir, mais aussi toute son église. Hein, vous imaginez que cette lettre, elle est lue ici. Et donc, on sent bien que la lettre, c'est pas une carte postale à un pote. Ça va pas être de la bibine de chat, cette lettre. Ça va être quelque chose qui va compter. Et à la fin de la lettre, de cette première partie, de cette introduction, il y a 2 mots. 2 mots dont on a déjà parlé aujourd'hui, qu'on parle souvent à l'église. C'est la grâce et la paix. C'est la grâce et la paix. Parce que cette grâce, elle nous remet devant l'immensité du sacrifice de Jésus. Et Paul, ce n'est pas anodin, commence avec ça. Et la paix, on peut la lire aussi comme le bien-être que seul Dieu peut donner. Alors vous allez voir que je n'ai pas voulu dans ce message seulement faire l'analyse du texte, mais aussi faire des allers-retours. Et c'est moi ça qui m'a bousculé, et qui, j'espère, va vous bousculer aussi dans le bon sens du terme. Pas vous agresser du tout, aucunement. Mais je vais faire des allers-retours pour vous montrer que c'est pour ça, en fait, que cette lettre est dans la Bible. Parce qu'elle compte. Parce que Dieu nous apprend des choses avec ça. Et je pense que la première chose qu'il nous dit, c'est quand j'ai une décision à prendre. Il y a un choix ici qui va devoir être fait, hein, on va y venir. Est-ce que je m'appuie sur la grâce et sur la paix? Si, quand vous avez une grosse décision à prendre, il n'y a pas en vous le bien-être que Dieu propose, peut-être que cette décision n'est pas la bonne. Peut-être qu'il vous faut remettre encore tout ce que vous vivez devant Dieu et le remettre avec humilité. Et vous allez voir que la grâce, c'est vraiment une clé de cette lettre. Souvent, hein, je pense que on prend Dieu pour un petit accommodement entre amis. On a pris cette décision et on essaye de grappiller dans cette décision tous des éléments qui viennent de Dieu. Mais est-ce que Dieu est à la première place? On va voir dans la lettre comment Paul développe ça.
Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de toi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car ta grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé.
On pourrait penser que Paul, c'est un beau manipulateur. Et je pense que c'est tout le contraire. On pourrait dire qu'il va amadouer Philémon pour qu'il puisse entrer dans la chose que Paul souhaite. Mais Paul va prendre une toute autre direction. La première chose, et c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte, il commence par dire « Je prie ». Mais pas seulement « Je prie ». Deux mots sont capitaux dans cette notion de prière. « Je prie constamment ». « Je prie continuellement ». Paul, je l'ai lu dans tous les commentaires, avait une vie incroyable de prière. Parce qu'il prie constamment pour Philémon, mais on peut bien penser, avec tout le passé, avec tous ses voyages, que Philémon n'est pas le seul dans ses prières. Et la deuxième chose qu'il met en avant, c'est la reconnaissance. Est-ce que je commence par réfléchir à mes problèmes, à mes situations, en disant « Seigneur, je te suis reconnaissant ». Est-ce que on n'est pas plutôt dans le bureau des plaintes? Est-ce que mon paquet de prières que je donne peut-être tous les jours au Seigneur, c'est pas d'abord un catalogue de demandes, un catalogue de plaintes, et puis Seigneur, n'oublie pas de répondre, mais de répondre comme je veux, dans le projet que moi j'ai? Et vous allez voir en fait que entre la demande que Paul va faire à Philémon et ce qui est mieux pour Paul, il y a une fameuse différence. La deuxième chose sur laquelle Paul s'appuie avant d'introduire sa demande très concrètement, c'est qu'il s'appuie sur deux choses en fait, la foi et l'amour. Ça, ce sont les deux piliers. Je me suis dit, mais est-ce que tu pries toujours avec amour? Est-ce que quand tu pries avec foi? Ou est-ce que peut-être quand je prie, j'ai rien à perdre de toute façon. Je vais quand même essayer, pourquoi pas? Mais ça, c'est pas mettre sa foi en commande. C'est pas mettre l'amour de l'autre aux commandes. Est-ce que je prie pour avoir ce qui m'arrange moi? Ou est-ce que je prie pour le projet de Dieu? Et ça, je pense que c'est une leçon qu'on doit vraiment mettre quelque part dans son cœur et dans sa tête. La troisième chose, on en parlait à l'occasion de la Sainte Cène, c'est la communion fraternelle. Paul remercie Philémon pour tout le bien qu'il fait aux autres. Et ça, je pense que c'est important. Ça nous arrivait à tous de devoir aider quelqu'un, à tous. Tout le monde a au moins une fois dans sa vie, je dirais dans l'année, accueilli quelqu'un qui venait parler avec vous pour dire « Écoute, vieux, ça va pas. » Alors peut-être que on peut dire « Mais viens manger à la maison, viens prendre une bonne glace, viens prendre un bon café. » On peut peut-être dire « Ben voilà, on va faire quelque chose ensemble, quelque chose de gai. » Mais est-ce que quand on traite le problème, on ne se remet pas soi-même aux commandes et dire, tu sais, moi, ce que tu vis, je l'ai vécu là, avec cette personne-là. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur votre terrain, là où vous êtes confortable. C'est-à-dire pas le terrain où l'autre souffre, mais le terrain où vous, vous êtes bien. Parce que, évidemment, vous, vous en êtes sorti du problème. Je dis vous, c'est nous. Alors, peut-être que cette introduction, c'est aussi ça. Est-ce que quand Paul parle à Philémon, et vous allez voir la suite, il se met sur d'autres fondations que nous prenons. Nous, nos fondations, souvent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et peut-être que quand quelqu'un vient, quand un frère ou une sœur vient, on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas être vrai. Oh, je vais quand même pas le choquer, il est déjà assez mal comme ça. Vous allez voir que Paul a une toute autre attitude. Et la première chose que Paul nous dit dans cette introduction, c'est de dire, voilà, d'abord je me mets devant Dieu. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que tu as fait dans le cœur de Philémon, avec Philémon. Et avant de parler, je me mets devant le Seigneur. Et avant de répondre, je me mets devant le Seigneur. Vous allez voir que plusieurs fois, je vais vous faire jouer un jeu de rôle. Et je vous demande maintenant d'imaginer que vous êtes Paul. Et c'est vous qui écrivez la lettre. Quand même, Onésime, c'est celui qui me fait le plus de bien. Parce que moi, Paul, je suis quand même un peu dans une situation cata. Je suis en prison, je suis enchaîné à un soldat, j'attends mon jugement et... un jugement possible, j'allais dire un jugement probable, c'est la fin, c'est la mort. Et est-ce que on va se débarrasser, entre guillemets, de celui qui me fait le plus de bien alors que peut-être demain je suis plus là? C'est un peu ça, Onésime. Et la lettre de Paul par rapport à Onésime. Et vous allez voir que Paul va creuser des fondations. Et ces fondations qu'on creuse, est-ce qu'on les creuse dans le roc? Est-ce qu'on prend le risque que ça va prendre du temps parce que le roc, il faut le creuser? Ou bien est-ce qu'on fonce et qu'on fait des murs en carton sur le sable? C'est ça la première chose, je pense, qui est importante. Qu'est-ce que je vais mettre aux commandes? Il y a trois choses. Il y a trois choses qu'on peut mettre aux commandes. La raison, les émotions ou la foi. Parce que si on quitte le personnage de Paul et qu'on rentre dans celui de Philémon, bof, hein. Parce que la victime dans l'histoire, c'est Philémon. Parce qu'Onésime, il s'est enfoui, mais il s'est enfoui en prenant du blé. Donc il a pris de quoi subsister. On l'a vu la fois passée, je ne veux pas recommencer l'histoire de l'esclavage à cette époque-là, mais Onésime, c'est un capital. Donc Philémon, il a investi dans un capital. Et il a perdu ce capital, parce qu'Onésime, il est parti. Et la troisième chose, et peut-être la plus dangereuse pour Philémon, c'est qu'il perd son autorité. Il prend le risque, parce que vous avez vu, on l'a décrit la fois passée, le mois dernier, c'est une grande propriété. Et le fait qu'il n'y ait pas de réaction à la fuite d'un esclave, ça peut donner des idées à tous les autres esclaves. Est-ce que Paul va prendre en compte ça? Est-ce que Paul, quand il écrit à Philémon, va compatir quelque part à la situation de Philémon? Eh bien, en fait, il va sur un tout autre terrain. Je pense qu'il a de l'empathie pour Philémon. Mais il va le mettre sur le terrain de l'amour. Ça me fait penser un peu à l'orthographe. Quand tout le monde a subi des dictées, hein. J'étais un stit, donc je suis sur mon terrain. Souvent, Alex, qui était très mauvaise là-bas, je prends ton exemple parce que c'est moi. Non, tu étais excellent. 18 fautes, Alex. 100 mots, 18 fautes. Le résultat, 2 sur 20. Mais elle a écrit convenablement 82 mots sur 100. Comment est-ce que je vois la situation? 2 sur 20 ou 82 sur 100? C'est pas tout à fait le même dans la tête de l'autre. Et c'est le même exemple. Paul veut mettre Philémon, tu as tellement fait de bien. Et en plus, tu me fais du bien à moi. Parce que ce que tu as fait, ce que tu as réussi, ça me donne de la joie et ça m'encourage. Et je vous rappelle qu'il est enchaîné. Et il met Philémon sur ce terrain-là. Je fais un aller-retour avec nous. Est-ce que nous sommes sur le bon terrain? Est-ce qu'on est capable, quand on est dans une situation, d'ouvrir les yeux? Large, pas d'ouvrir les yeux comme ça, mais d'ouvrir les yeux comme ça. Élargir notre vision. Souvent, je pense qu'on agit de 3 façons. On agit de manière incrédule. On fonce ou on s'effondre. On y va, parce que vous êtes un boulimique, vous êtes le bulldozer. Ou vous effondrez parce que vous avez pensé que Dieu l'a sauté au-dessus de votre maison, il ne sait même plus où vous habitez. Et dit, voilà, qu'est-ce que tu fous, Seigneur? Mais il est là. On l'a dit tellement de fois aujourd'hui. Il est là à chaque instant. Alors, la réponse, c'est pas moi qui vous la donne. Je suis qu'un passeur de mots. Mais la réponse, c'est la lettre, c'est l'attitude de Paul, c'est la vision de Paul, c'est l'approche de Paul. Et avant d'aller dans le centre de la lettre, retenez ces deux mots. Le centre de l'approche de Paul, c'est la foi et c'est l'amour.
C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire.
Ça, c'est le cœur de la lettre. Onésime n'est plus le même homme. Onésime, c'est un voleur, vraisemblablement un mauvais esclave, parce qu'on dit « il t'a été inutile ». Comment on juge votre voisin, celui devant, derrière, gauche, droite? On met tous une étiquette, on est tous attirés par certains visages et pas par d'autres. Faites le parallèle avec la télé, avec la musique. 5 secondes d'une musique et vous décidez Nous décidons si c'est bien, si c'est moche. Si par malheur, quelqu'un vous dit bonjour d'une façon qui ne vous plaît pas, celui-là c'est... Continue la phrase. Ça c'est mettre des étiquettes. On fait ça tout le temps. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la demande de Paul de renvoyer Onésime, quelle étiquette Philémon a mise? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le seul vrai changement en nous, c'est la nouvelle naissance. Et Onésime n'est plus le même. Parce que s'il est encore le même, si quand il retourne, il vole à nouveau, il devient de nouveau un mauvais esclave, alors c'est du pipeau tout ça. Hein? Ça n'a pas changé. Si, et c'est là que je veux en venir, une des choses que je veux vous dire, si dans notre témoignage de Christ, si on se met en colère toutes les deux minutes, si on est asocial total avec tout le monde, si on met des étiquettes sur celui-là, 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 alors non, on n'a pas changé. On n'est pas vraiment quelqu'un d'autre. Je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse vous faire quand vous avez rencontré Jésus. Qu'est-ce qui se passe en toi? T'es plus le même. C'est le meilleur compliment. Parfois, l'autre ne comprend plus rien. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait notre modèle Christ? Éric le disait tout à l'heure. Pour vous dire que le Seigneur est dans la maison. Je pense pas que le Christ, il était dans la jet set à Jérusalem, hein, qui faisait les booms et les soirées mondaines. Hein. Il était plutôt avec les gens, les mécréants. Hein. Ça doit quand même être une leçon pour nous, ça. Hein. Parce que nous, peut-être, on va s'occuper que des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on est bien. Oui, mais ça, ils le savent. Mais les autres, mais tous les autres. Alors, il y a une chose de très importante pour comprendre la demande de Paul. C'est que les deux personnages, ils ont un grand point commun, un immense point commun. Ils ont complètement changé. Parce que Onésime est devenu le meilleur ami de Paul. Il sert le Seigneur, peut-être même jour et nuit. Et Philémon, il a une église géniale, chez lui. Donc, le Christ, on peut le dire, c'est acté, il a transformé la vie de ces deux personnes. Et à qui ils le doivent sur terre? À Paul. Paul est l'intermédiaire. Paul est la sentinelle qui est intervenue dans la vie de ces deux. Mais il manque une flèche là-dedans. Il y a une flèche terrible entre Philémon et Paul. Il y a une flèche terrible entre Onésime et Paul. Mais il n'y a plus de flèche. Il n'y a plus de flèche entre Onésime et Philémon. Tu peux passer, Loïc. Alors, Paul va détailler ça. Et ça, c'est, je pense, très important de que vous soyez bien attentifs à cette construction, je pense. Onésime est devenu un frère en Christ de Paul. Paul qui est lui-même en énorme difficulté. Et en fait, Onésime est un des seuls qui fait du bien à Paul, qui atténue ses souffrances. Ça doit quand même déchirer le cœur. Je perds Onésime, mais non seulement je le perds, mais celui qui me fait le plus de bien, je le mets dans les griffes de l'autre, parce qu'il ne sait pas, c'est l'objet de cette lettre, il ne sait pas comment Philémon va le recevoir. Et Philémon, on l'a dit, on l'a vu, c'est la loi, donc il ne risque rien s'il tue Onésime, il ne risque rien. C'est normal. Mais le coût, c'est un prix, hein. Cette demande de Paul, elle a un prix. Et Paul, vous allez voir, il aurait pu très facilement demander ça comme un service, comme une marque de fidélité. Parce que quand même, Paul, je ne sais pas vous, mais moi je n'oublierai jamais les personnes qui m'ont amené au Christ. Je les oublierai jamais. C'est un peu comme si je devais quelque chose à ces personnes. Même si ce n'est pas elles, l'acteur principal, ça reste Dieu. Mais si elles n'avaient pas écouté Dieu, je n'aurais peut-être pas accepté Christ dans ma vie. Et je pense qu'on est tous comme ça. On a tous quelqu'un à qui on a une dette. Alors, Paul, je pense à l'autorité pour obliger, pour inciter Philémon à répondre. Et pourtant, rien de tout ça. Pas de rapport de force, pas de chantage sur les émotions, pas de discours caché. Il est clair. Paul va demander à Philémon un acte gratos. Gratos, volontaire, fondé sur une seule chose, l'amour. Et cet entonnoir, hein, que vous voyez là, voilà, magnifique, Loïc Théanas. Cet entonnoir, j'espère que vous n'allez pas l'oublier. Moi, c'est ça qui m'a envoyé par terre, je pense. Parce que la demande de Paul, c'est pas seulement « Est-ce que tu veux bien libérer Onésime ? Est-ce que tu veux bien l'affranchir ? C'est quand même mon meilleur ami. » C'est un peu comme s'il dit « Est-ce que tu veux pas lui pardonner un peu, quoi ?» Ouais, je sais, il a volé un peu, il est parti, mais c'est quand même un esclave, quoi. Non. La demande, elle est top level, top niveau. Il lui dit, je veux que tu l'accueilles comme un frère, comme si c'était moi-même. Et notre cerveau à nous, c'est bien souvent cet entonnoir-là. Ah, on a les trois choses, hein. On a Dieu, on a les autres, et on a nous-mêmes. Mais il y a deux problèmes avec l'entonnoir. C'est dans quel ordre les choses passent au travers. Et la deuxième chose, c'est l'épaisseur de chaque boule. Bien souvent, avouons-le, on passe quand même d'abord par notre boule. Hein. Et puis peut-être l'autre, il dit, ah oui, il faut pas que j'oublie Dieu. Ça, c'est quand on est dans les mauvais jours. Et quand on est dans les bons jours, je vais prier un peu à Dieu. Il faut que je pense à l'autre et puis ainsi un peu à moi. Mais est-ce que c'est la bonne proportion? Je pense qu'on ne peut pas lire cette lettre entre deux tasses de café. On ne peut pas recevoir cette parole de Dieu sans se dire « Est-ce que j'ai le bon ordre dans mes filtres ? Est-ce que Dieu a la vraie place, a la première place dans le problème qui m'occupe ?» Je vous mets une petite question vraiment très embarrassante. Qu'est-ce que nous, on aurait demandé ? On est Paul. Qu'est-ce que je demande ? Parce qu'on est tous, les rois du compromis en Belgique, hein, on connaît ça. Hein. C'est quand même un peu compréhensible. Écoute, on va faire en sorte, on va faire un petit deal, quoi. Tu me laisses Onésime, ok ? Voilà, et je prie pour toi tous les jours. Pas de problème. Entouré de chocolat, quelque chose qui m'arrange, moi. Si Paul demande de garder Onésime, c'est son filtre à lui qu'il fait passer d'abord. Avant de lire la partie suivante de la lettre, posons-nous cette question-là. Est-ce que dans ce problème-là, je me suis mis suffisamment devant le Seigneur avec l'amour et la foi, est-ce que dans ce tournant-là que j'ai pris, est-ce que je conduisais bien à droite? Ou est-ce que c'était moi aux commandes? C'était mon propre bulldozer. Vas-y, Alex.
Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même.
Waouh. Ça, c'est chaud. Hein. Souvent, on croit qu'on maîtrise tout. On croit que le Seigneur est aux commandes de notre décision. Et puis, inexplicablement, quelque chose arrive et patatras. Tout capote. Pourtant, c'était clair. Ça devait aller comme ça. Je te comprends plus, Seigneur. Parce que souvent, ce qu'on imagine ou ce qu'on pense être le bon chemin, c'est beaucoup plus court que le chemin de Dieu. Et Paul suggère à Philémon, et si le plan de Dieu, c'était que Philémon et son esclave deviennent une force incroyable pour le Seigneur. Et c'est pour ça que cette lettre est écrite. C'est pour que cette flèche existe. Nulle part c'est écrit que Onésime regrette. Nulle part c'est écrit que Philémon demande des comptes à Paul. Est-ce que on ne peut pas imaginer que si cette relation renaît, parce que ce qu'il demande en fait Philémon, c'est qu'il fasse non seulement table rase du passé, mais qu'il devienne frère. Faut oser, hein. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça m'a ramené au passé, à des tournants ratés, à des pardons non dits, non demandés. Ça m'a mis aussi devant mon présent, c'est-à-dire, est-ce que, mais surtout, parce que c'est pas écrasant. Pour moi, ça n'a pas été écrasant. Et j'espère pour vous que ça ne l'est pas. C'est surtout, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Peut-être que vous devez arracher une étiquette que vous mettez sur quelqu'un. C'est pas moi qui dois faire ça. C'est pas moi qui dois vous dire ça. Je suis qu'un un comme vous. J'ai écrit cette phrase et j'ai dit, oulala, est-ce que je vais la dire? Mais je vais la dire. Si vous partez d'ici en disant, ça me concerne pas ce qu'il a dit, le drôle, là. C'est pas vis-à-vis de moi, il n'y a rien à voir avec ça. C'est vis-à-vis de lui. Et si vous dites, voilà, ça me concerne pas trop, c'était chouette hein, quand même, et puis il y avait une belle image au début, quand même fait un petit effort. Mais je veux dire une chose, l'indifférence, ça tue. L'indifférence, ça tue. Ça tue. Et ça tue les relations d'abord. Alors il y a des dessous à la demande. Les relations entre les trois personnages, elles sont très fortes. Et En demandant la vie de Philémon, Paul demande une réconciliation totale. C'est très loin de la loi, hein. C'est beaucoup plus fort que la loi. C'est pas son autorité religieuse qui va imposer à Philémon le choix. Mais il va demander de mettre le ciel aux commandes. Alors, l'enjeu, je vais le dire comme ça, ne pas être trop long. On pourrait dire que l'enjeu, c'est le pardon entre l'offenseur et l'offensé. C'est qu'il y ait un vrai pardon entre Philémon et Onésime. Mais pour moi, c'est tellement plus que ça. Pour moi, l'enjeu, ce sont les retrouvailles éternelles, on en parlait tout à l'heure, les retrouvailles éternelles entre Philémon et Onésime. Et que si la réponse de Philémon n'est pas la bonne réponse, ça ne se passera pas. Ça, c'est l'enjeu. Alors peut-être que vous n'allez pas oser, et ce sera la dernière partie de ce que j'ai à vous dire, peut-être que vous n'allez pas oser, vous dites, mais non, moi je vais quand même pas aller le déranger, lui, tout simplement parce qu'on a la trouille d'y aller. Avouons-le. On a la trouille de s'exposer. D'aller trouver l'autre en disant, tu sais, quand je t'ai dit ça, vraiment c'était moche. Et ça, ce sont des petites choses, parce que ici, on n'est pas dans des petites choses. Il est question de vie et de mort. Comment nous traitons les autres? C'est un miroir sans concession. Hein, souvent, on se regarde dans le miroir, on dit, oula, je prends de la bouteille, là. Mais, l'autre voit en nous le miroir du témoignage du Christ. Et si le miroir n'est pas bon, c'est pas bon pour l'autre. L'enjeu n'est pas anodin. On ne peut pas dire, on ne peut pas penser, c'est pas grave, le Seigneur comprendra. C'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Si je ne réponds pas comme Dieu me le demande, je mets en jeu les retrouvailles éternelles. On va finir, avant la conclusion, par parler de la dette. Onésime a une dette. Il doit de l'argent, il doit son travail, c'est clair, c'est facile de comprendre. Mais Paul dit, les deux ont une dette envers moi. Qui ? Nous-mêmes. Parce que sans Paul, peut-être il ne serait pas venu à Dieu. Mais Paul, il a une dette aussi. Parce que quand même, on peut se le rappeler, c'était un assassin, Paul. Il a quand même regardé Étienne se faire lapider sans bouger le petit doigt. On a tous des dettes. Alors, c'est l'impasse, c'est comme le gouvernement. Imbroglio total. Non. La dernière leçon de la lettre, c'est ceci. Je vais le dire comme ça. Paul doit se mouiller. Paul va s'engager. Il est prisonnier. Et il dit, c'est moi qui paye. Je voulais vous laisser cette petite phrase, c'est pour ça que je réfléchissais. Comment je vais vous dire pour que ça vous impacte, mets ça sur mon compte. Alors c'est pas mets ça sur mon compte quand vous allez boire un verre en disant, écoute, mets une tournée, mets là sur mon compte, c'est pas ça, hein. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Paul a tout à perdre s'il perd Onésime. Mais il dit, je te le renvoie, je me prive de ça. Ça lui coûte. Et je te dis en plus, quand il revient, ce qu'il te doit, c'est moi qui paye. Pfiou. Alors que peut-être il a l'autorité totale pour dire « Eh les gars, sans moi, naze, hein, nul, hein, nul bulle. Hein. » Non, non, il se mouille. Alors, ne soyons jamais des donneurs de leçons. Restons humbles. Ne jouons pas au chevalier blanc. Soyons vrais. Parce que notre dette, hein, tu le disais tellement bien, vous l'avez si bien chanté, notre dette, Jésus l'a payée. Et je pense qu'on doit se laisser interpeller par cette phrase de Paul. Mets ça sur mon compte. Mouillons-nous, engageons-nous dans la relation. Alexandra va nous lire la dernière partie et je vais conclure de manière plus brève. Vas-y.
C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.
Voilà, je vais juste sauter cette partie-là, Loïc, en disant simplement que le choix de Paul, il n'est pas neutre. Ne restez pas neutre quand vous êtes dans un problème. Ne restons pas neutres. On doit prendre position avec toutes les fondations que j'ai expliquées au début. Et Paul met quand même un peu de pression sur la fin, je vais juste dire ça. Ça veut dire, attends, tu vas décider, mais je viens, hein. Alors, je viens venir, hein. Je veux entendre. Mais, il a une foi terrible, parce que ce qu'il dit à Philémon, et je ne pense pas là qu'il y a une forme de manipulation, il dit, je sais, je suis sûr que tu vas faire plus que ce que je ne te demande. Belle, belle marque de foi, je pense. Alors, je vous laisse cette dernière dia. Parce que je pense que ces deux phrases ne méritent pas plus que de les lire et de s'en imprégner. Mais je pense que cette lettre, elle a un sens pour notre vie, pour ta vie. Et j'ai envie de vous dire, même si c'est dur à entendre, que tu le veuilles ou pas, ça va se passer. Que tu le veuilles ou pas. Que tu sois d'accord ou pas, parce que notre Dieu peut tout. Alors, je vous lis ces phrases, qu'elles nous suivent peut-être dans les difficultés ou dans les bons moments. Accepter Christ comme Sauveur, c'est aussi l'accepter comme Seigneur. Et croire en Christ, c'est se placer sous l'obéissance de la loi de l'amour. Amen.